La culture que j'aime sur IDFM Radio avec Francky à la technique. Pour cette émission, je vais vous parler de... D'abord, on va avoir en ligne Andrea qui est Miss Val d'Oise et qui concourt demain pour le Miss Île-de-France. On est avec elle, Andrea. On va la voir dans 2 minutes au téléphone. Ensuite, nous allons parler d'une comédie musicale au Théâtre Essayon, c'est poste, c'est connecté, c'est tonitruant. Et puis ensuite, nous parlerons d'une exposition qui fait du bien, mais qui donne aussi à réfléchir sur les déserts. Et ça, c'est à la Grande Galerie du Jardin des Plantes. Mais tout de suite, on écoute Last Dance, Donna Summer.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Andrea Roger, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, très bien, et vous-même?
Ça va, super.
Ouais, à trois jours la veille du concours. Alors, Vous êtes Miss Val d'Oise 2025. Félicitations.
Merci beaucoup.
Ouais, pour cette sélection. Vous connaissez bien notre région puisque vous êtes née à Hermont. Demain 20 septembre, c'est le grand jour. Ah, vraiment, on est avec vous là. Hein. On vous suit à fond. Vous concourez pour le titre de Miss Île-de-France.
Exactement.
Ce qui est formidable, ce titre vous permettrait, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs, ce titre vous permettrait, eh bien, voilà, de concourir pour les Miss France. Donc, c'est demain à Damary-les-Lys, le grand concours Miss Île-de-France. Alors, Andrea, comment se prépare un concours comme ça? Est-ce qu'on fait du sport? Question toute bête, hein. Quand on va chez le coiffeur, là, est-ce que vous y avez déjà été? Comment se prépare-t-on, hein?
Beaucoup de préparation quand même, parce que j'ai fait l'élection Miss Val d'Oise, donc c'est vrai que j'ai pu avoir un petit peu une belle expérience, mais là, on parle à l'échelle régionale. Donc c'est vrai que là, il y a beaucoup plus de concurrence, je pense, et beaucoup plus de préparation parce que c'est un show devant plus de 1000 à 1500 téléspectateurs. Donc voilà, et beaucoup de préparation mentale, physique, au niveau, faut que les ondes soient faites dans tous les cas, faut que les cheveux soient bien. Donc oui, beaucoup de préparation.
Voilà. Est-ce que vous aurez plusieurs costumes demain?
Alors oui, on aura plusieurs costumes. Je peux pas tout vous dire, mais en tout cas, le show s'annonce d'être incroyable. Le thème, ça sera sur les quatre sens. Ce sera la terre, le feu, l'air. Donc ça va être fou.
D'accord. C'est demain. On peut révéler l'heure du concours?
Oui, bien sûr. Les portes, elles ouvrent à 16h30. Je ne sais pas si il y aura des personnes qui viendront, qui nous écoutent, mais le spectacle donc commencera à 18h.
18h. Combien êtes-vous de concurrentes?
Nous sommes 16.
16 concurrentes, donc, qui représentent chacune une région de France.
Un département, oui. Un département.
Un département, très bien. Alors, racontez-nous un peu déjà votre sélection pour Miss Val d'Oise, qui a eu lieu déjà il y a quelque temps, je crois, au mois de mai.
Oui, c'est ça, le 3 mai exactement. Eh bien, écoutez, pour m'inscrire, je l'ai fait sur leur site. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent candidater à Miss Val d'Oise, les inscriptions sont ouvertes. Et donc, je l'ai envoyé en ligne. Et puis, en janvier, on a été convoqué pour se présenter, se rencontrer. Il y a une première présélection. Et après, j'ai été sélectionnée parmi 12 candidates et j'ai fait le show. Donc, le 3 mai dernier à Beaumont-sur-Oise.
D'accord. Est-ce que c'est votre première sélection?
Oui, c'est ma première candidature.
D'accord. Et comment vous vous êtes sentie pour cette première sélection au mois de mai?
Eh bien, écoutez, c'est une merveilleuse expérience. Je pense que c'est super d'avoir une première expérience avant la régionale. Comme ça nous permet de voir à petite échelle comment se préparer au mieux. Et puis, rencontrer les candidates, avoir une bonne aisance au niveau de l'oral, mais aussi au niveau des danses, des chorégraphies, du catwalk, du défilé. Donc voilà.
Très bien. Et là, vous étiez donc pour ce premier concours du mois de mai, je crois que vous étiez enfin une cinquantaine, déjà en deuxième sélection, hein, c'est ça, parce qu'au
c'est
départ...
Ils font une première sélection en ligne, enfin par mail, parmi toutes les candidatures, il fallait envoyer des photos de nous, puis quelques informations sur notre activité, sur ce qu'on fait, nos passions. Et puis après, 50 candidates sélectionnées, et ensuite, le jury sélectionne 12 candidates pour Miss Val d'Oise.
Et est-ce que déjà vous aviez des personnes autour de vous pour vous aider pour déjà la confection des costumes, le maquillage, la coiffure?
Oui, bien sûr, le jour de l'élection, Déjà, on a quelques week-ends, on a un week-end d'intégration pour se permettre d'avoir une bonne relation avec toutes les filles. Puis après, des week-ends entiers pour apprendre toutes les chorégraphies. Et après, sur place, le jour J, évidemment, on avait tout ce qui était coiffeuse et maquilleuse.
Voilà. Et donc, pour demain, je pense que c'est le même topo. Tout ce
c'est
qui
ça,
est coiffure,
exactement.
Maquillage a déjà dû commencer. Voilà, tous vos costumes sont prêts.
Oui, bien sûr.
Tout à fait. Alors, vous êtes toute jeune, hein, Andrea Roger, 21 ans. Quelles sont les qualités principales pour se présenter à un tel concours? On dit ça aussi, en effet, pour les jeunes filles qui souhaiteraient le faire pour 2026. Est-ce qu'il faut être... bon, bien sûr, il y a les qualités physiques, mais à part ça, est-ce qu'il faut être humaine, à l'écoute, curieuse, entrepreneuse, entreprenante?
Oui, je pense qu'il faut tout d'abord être bienveillante et à l'écoute, parce que évidemment, en tant que Miss Valdoise, déjà, en département, je viens à l'encontre des personnes. Donc, il faut aimer le contact humain dans tous les cas. Il faut être souriante, toujours avoir le sourire. Ça, on nous l'apprend aussi sur scène. Et puis, par la suite, il faut quand même être déterminée, parce que, évidemment, là, je vais à la régionale. Et il faut vouloir avoir cette couronne. Et puis après, à Miss France, c'est encore un autre sujet, mais c'est à l'échelle nationale. Donc il faut dans tous les cas être déterminée, persévérante.
Et est-ce qu'il y a une limite d'âge, minimum comme maximum, hein? Alors, je ne vais pas me présenter moi, hein, vous inquiétez pas, mais est-ce qu'il y a une limite
Alors,
d'âge?
Alors, il y a évidemment à partir de 18 ans. Et par la suite, non, il n'y a plus de limite d'âge. La preuve, Angélique Angarni-Philippon, donc la Miss France de cette année, elle a 35 ans, elle a été élue à 35 ans, donc voilà.
Très bien. Alors, c'est vraiment un défi. Je pense qu'en effet, vous le disiez tout à l'heure, c'est une question de volonté, de déterminisme. Il faut le vouloir, il faut se dire...
Exactement.
Voilà, j'aurai la couronne, c'est ce qu'on dit.
C'est ça. J'aurai la couronne. Il faut avoir une mentalité de gagnante et c'est comme dans le sport. Mais il faut quand même rester, je pense, humble face aux autres candidates parce que ça reste un concours, ça reste des jurys. Enfin, il y a beaucoup de personnes parce qu'on peut se représenter 3 fois à Miss Île-de-France. Et il y a beaucoup de candidates qui le refont. Et en fonction d'un certain jury, il est vrai que voilà, elles peuvent être élues première dauphine, puis après l'année d'après ne rien avoir. Enfin voilà, ça reste quand même un concours.
Oui. Combien de temps va durer le spectacle demain, enfin le concours, la prestation?
C'est environ 4 heures. Après bon, tout dépend de la délibération du jury si elle dure plus ou moins longtemps. On peut pas trop le savoir avant.
D'accord, oui, 4 heures. Et vous connaissez bien évidemment tout le défilé, les chorégraphies, toute la mise en scène.
Oui, évidemment,
ouais,
on
ouais,
connaît.
Ouais. Très bien. Je crois que le show Miss Île-de-France de demain n'est pas retransmis. Par contre, il peut y avoir des temps forts hein, sur Instagram, Facebook. Hein. Donc, regardez bien, chers auditeurs, comité Miss Île-de-France. Hein. Il y a un Insta à partir de 18h.
C'est ça.
Hein, pour demain. Ouais, en effet, hein, je le disais tout à l'heure, le concours Miss Île-de-France n'est pas retransmis en télé, mais par contre, bien évidemment, le concours des Miss, oui. Hein. Est-ce que c'est également une leçon de vie de se présenter à un tel concours, justement? Est-ce qu'il faut apprendre...
Oui, ça nous permet de grandir. Évidemment, on a du stress. Évidemment, on passe peut-être par des hauts, par des bas, parce que je pense que la comparaison, elle est inévitable. On reste dans un concours, donc voilà. Donc il faut apprendre aussi à avoir une estime de soi, avoir confiance et à se dire ok, c'est pas grave si je n'ai pas de titre, ce n'est pas grave. Enfin voilà, savoir se rassurer. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur soi-même quand même.
Oui, c'est ça. Se dire, c'est comme ça, voilà. Si c'est pas moi, ce sera peut-être une autre année. Ou voilà, le prendre de manière ultra, très, très positive. Hein.
C'est ça.
Alors, quels sont vos... Enfin, on va peut-être parler, de votre activité à côté.
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis coach bien-être. Donc, je travaille dans le domaine du sport, de la nutrition. Donc voilà, j'aide les personnes à se sentir mieux physiquement, mais aussi mentalement.
Et donc, vous êtes entrepreneur. Je crois que vous avez monté
Exactement.
Votre structure pour permettre ce service aux gens. Vous êtes à votre compte. Est-ce que vous coachez des sportifs en individuel ou également peut-être des personnes en groupe?
Alors non, je ne fais pas en individuel. C'est plus des séances en groupe que je fais à CRJ. Donc voilà, après toutes les informations par rapport aux séances, je les poste assez régulièrement dans mes stories sur Instagram. Donc mon Instagram, si vous voulez le retrouver, c'est Andrea Roger Off. Et voilà, donc les personnes viennent. C'est vraiment bonne ambiance et personne ne se juge, on a de tout niveau, donc c'est vraiment ce que j'aime aussi.
Très bien, c'est des cours collectifs finalement en matière de bien-être, nutrition, sport. Et ça peut être des cours réguliers ou en général c'est du one shot?
Oui, c'est assez régulier, en général on fait ça tous les mercredis vers 18h environ, tous les samedis matins. Après, l'horaire peut varier en fonction de... Ben voilà, là, on arrive en hiver aussi, donc peut-être qu'on va varier tout ça. Et puis, tout va dépendre, évidemment, si je suis élue Miss Île-de-France. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Voilà.
Mais
ça va se ralentir
que...
un petit peu.
Oui, on en parlait, Andrea. Le sport est tellement important, hein, le fait de bouger. Hein, on le dit beaucoup aux jeunes.
Oui.
Voilà, bougez, faites un petit peu d'exercice, un mouvement, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. Et là, vous êtes vraiment bravo, vous êtes complètement dans ce qu'il faut faire. Une passion peut-être à côté, est-ce que la lecture,
alors,
les travaux
juste
manuels...
En parlant de ça, je voulais juste faire un point. C'est vrai que moi, j'ai à cœur de mettre en avant la lutte contre la sédentarité et de vraiment montrer aux jeunes qu'il faut parfois se déconnecter des écrans, des réseaux sociaux et pour se reconnecter à l'instant présent, comme vous disiez, hein, se remettre en mouvement, bouger plus. On a vu avec les JO l'importance du sport et du bien-être que ça peut nous procurer. Donc voilà, je venais juste là-dessus parce que je pense que c'est important. Mais sinon, au niveau de mes passions, le sport, du coup, je pense que vous l'avez compris. Et après, évidemment, j'adore faire des shootings photos, j'adore la mode. J'étais beaucoup aussi, j'ai un petit trait artistique, je l'avoue. J'aime beaucoup peindre, dessiner, surtout quand j'étais plus jeune. Donc, voilà.
Ouais, formidable, vraiment une personnalité très, très complète. On est avec vous, hein, je me répète, hein, pour demain. On vous
Merci
souhaite
beaucoup.
Plein de plein de courage et puis surtout une super expérience. Voilà, et soyez vous-même.
Merci beaucoup.
Alors, revenons un tout petit peu pour conclure sur notre région, hein, le Val d'Oise.
Oui.
Quels sont les endroits que vous préférez de votre région? Là, nous sommes donc à Enghien. Vous connaissez, puisque vous êtes déjà venu à la radio.
Oui.
Radio, voilà, IDFM Radio. Est-ce qu'il y a un endroit que vous portez dans votre cœur?
Il est vrai que j'aime beaucoup votre casino. il est très grand, puis même c'est très beau tout le lac qu'il y a autour. C'est vraiment sympa pour se balader. Et puis moi j'ai vécu donc à Champagne-sur-Oise. C'est une petite commune et j'ai fait toute ma scolarité aussi à l'Isle-Adam qui est aussi une très belle ville, je trouve.
Oui, l'Isle-Adam, où il y a d'ailleurs beaucoup de monuments historiques. C'est bientôt les journées du patrimoine. Et chers auditeurs, je suis sûre qu'il y a des très belles bâtisses à voir pendant ce week-end. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Andrea de nous avoir consacré ces quelques minutes. Peut-être un message pour les jeunes filles ou jeunes garçons qui manquerait de confiance en eux, peut-être essayer d'être eux-mêmes, hein, c'est
oui,
ça, de
bien
ne
sûr.
Pas hésiter, ne pas hésiter à
oui.
communiquer, à parler.
Oui, bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi-même d'ailleurs, il est vrai que j'hésitais à participer à ce concours, à m'inscrire, parce que en fait, la peur du regard des autres, la peur de pas y arriver, nous pousse parfois à pas passer à l'action, tout simplement. Donc je pense que il faut, la clé c'est vraiment d'oser, de pas trop réfléchir, d'oser faire les choses et d'avancer petit pas par petit pas. Peut-être moi j'aime bien me répéter des phrases positives au quotidien qui vont faire que l'estime de soi va augmenter. Je voulais vous laisser aussi sur les votes SMS parce que évidemment j'ai besoin de votre soutien pour atteindre le top 8. Et il faudrait que vous envoyiez IDF14 par SMS, donc en 715-15.
Très bien, donc IDF14, ça c'est le message que l'on tape.
Voilà.
Le texto, vous tapez, chers auditeurs, IDF, comme Île-de-France 14, en minuscule ou en majuscule ?
En majuscule.
Ah, très important, majuscule. Et à quel numéro donc ?
715-15, donc depuis la France, la Corse et les Antilles françaises peuvent voter, ou alors au 70-10, depuis la Réunion, si on a des réunionnais parmi nous.
Depuis la Réunion, 70-10, sinon depuis la France, 715-15. Eh bien, ce sera fait.
Merci
beaucoup, Andrea. On est avec vous demain et... Ah, j'ai oublié de vous demander votre chanson préférée qu'on va écouter, enfin en tout cas un titre. Que,
oui.
Voilà, qui vous porte.
Mais c'est The Best de Tina Turner.
Très bien, bah on l'écoute.
Merci beaucoup.
Bonsoir, merci.
You come to me. Yeah.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Tina Turner, The Best. Et je reçois pour parler comédie musicale, Alex Todo, bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, ravie de vous avoir en ligne. Alors, vous baignez dans l'univers de la musique, vous faites de la direction musicale et vous avez créé l'excellente musique, donc de cette comédie musicale qui fait ça le comble, hein, à l'Essayon, Théâtre Essayon à Paris. Je veux parler de Poste. Alors, les quatre jeunes comédiennes, comédiens, plus vous, excellents au piano, sont vraiment très très talentueux, la musique est brillante. J'ai découvert moi-même cette comédie musicale, donc pas mal de journalistes commencent à en parler. Bref, chers auditeurs, courez-y, Poste au théâtre Essayons. La moyenne d'âge ne dépasse pas les 28-30 ans, hein. J'étais parmi les plus âgés, hein. Alors permettez-moi, Alex, de raconter quand même juste le pitch. C'est simple, mais c'est original. Eh bien, c'est sur les déraillements d'une intelligence artificielle qui est superficielle. Il y a également un smartphone, hein, qui est en burn-out puisqu'en mode avion. Bref, le spectacle est une satire de nos vies hyper connectées et ça fait du bien. Pour en parler, donc, Alex. Alors, je voudrais revenir un peu, Alex, sur votre parcours. Vous avez créé la musique. Vous avez créé les paroles des chansons, puisqu'il y a énormément de chansons originales. D'où vous est venue, finalement, cette idée de parler comme ça des nouvelles communications, de l'hyperconnexion, des algorithmes?
Oui, alors déjà merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors en fait, Poste, c'est un spectacle qui date déjà un tout petit peu. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus avec Victor Bourrigo qui a écrit le livret et qui fait également la mise en scène. En fait, au départ, c'est donc, comme ce spectacle, vous l'avez expliqué, en 3 petites histoires. On l'a écrit un peu au fur et à mesure. Et notamment, la première, en fait, est née d'une opportunité qu'on avait en 2023, qui était de créer une petite carte blanche lors d'un événement à l'Hôtel de Ville à Paris pour une journée qui était dédiée aux jeunes et notamment sur les thématiques du numérique. Donc nous, on avait un peu carte blanche à ce moment-là et on s'est demandé ce qu'on pouvait écrire sous un format comédie musicale qui parlait un peu avec nos codes de ce qu'on pouvait avoir autour de nous.
Ouais.
Donc on a créé à ce moment-là la première capsule qui s'appelle Love Me Blender, qui parle en particulier d'applications de rencontres. Et puis après, ça s'est déroulé un peu comme ça, avec d'autres opportunités qui nous ont amené à parler ensuite d'intelligence artificielle, puis de déconnexion, voilà.
Alors, cette civilisation du smartphone, puisque bon, maintenant, le monde entier en est équipé, que vous inspire-t-elle ?
Beaucoup de choses. Je pense que on n'a pas complètement, on n'a pas une entière réflexivité par rapport à tout ça. Je pense que on a écrit ce spectacle en étant nous-mêmes complètement baignés dans ce nouvel écosystème numérique. Et je pense qu'on le critique avec nos mots, tout en étant parfaitement conscient et consciente qu'on est nous-mêmes immergés et un peu tributaires de ces logiques-là. Je pense que c'est un petit rapport amour-haine qu'on a avec tout l'environnement de nos smartphones, etc. Et donc on essaye de, évidemment, montrer du doigt un peu toutes les dérives qu'il peut y avoir. Mais je pense que ce qu'on essaye avant tout dans ce spectacle de faire, c'est de je pense qu'on a un propos qui est évidemment porté sur la technologie, mais qui est avant tout sur nos problématiques humaines. Et je pense que l'environnement numérique qui est dépeint dans la pièce est vraiment un cadre global, et ce dont on parle au fond, ce sont vraiment des problématiques très proches de nous et les problématiques qui touchent à l'amitié, à la famille, aux relations romantiques, etc.
Ouais. Voilà. Oui, puisqu'il est question en effet d'un couple en rupture, hein, dans la première histoire. Dans la deuxième, il est question d'un père que sa fille n'a pas vu pendant 17 ans et qu'elle va revoir. Et dans la troisième, c'est question d'une mère qui... Alors, cette mère, d'ailleurs, Alex, elle a un peu une emprise hein, sur son fils.
Tout à fait. Maman cœur bleu, comme on l'appelle.
Oui. Alors justement, j'ai une question. Excusez-moi de vous couper. Vous avez vraiment ce talent de faire vivre. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, de faire vivre ce qu'il y a dans nos téléphones, que ce soit des applications ou des algorithmes. Donc ça, vous le faites devant nous, vous le personnalisez par des mises en scène, hein, des chansons, des comédiens. Et quid de l'émotion dans les personnages, justement, de leur personnalité? Est-ce qu'elle n'est pas un peu effacée, justement, par les nouvelles technologies?
C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'on a eu un parti pris avec Victor quand on a écrit cette pièce, c'était de justement déjà donner une émotion à la technologie.
Oui.
Scéniquement, en particulier aux applications, aux intelligences artificielles, etc., les faire chanter, leur faire avoir des émotions qui sont perçues de manière plus ou moins réelle. Et effectivement, du coup, ça vient un petit peu en concurrence avec l'émotion des personnages humains, si on peut le dire. En particulier, l'exemple que vous avez pris sur la mère dans un des épisodes qui est un peu mise en perspective avec les émotions des applications d'un smartphone, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je pense qu'on essaie d'établir des parallèles étranges et absurdes qui finalement parlent un peu de ce qu'on s'impose avec ces technologies-là aussi. Voilà, et de créer ce sentiment d'étrangeté où on a l'impression que justement ces machines peuvent nous comprendre et peuvent nous refléter d'une certaine manière sans jamais vraiment y arriver. Donc on essaie de trouver toujours cette espèce de vallée de l'étrangeté où on a l'impression qu'on est dans une émotion commune avec une machine, alors qu'on ne l'est pas réellement. On s'est un peu inspiré notamment des développements de l'intelligence artificielle qui font que l'IA devient de plus en plus cordiale avec les utilisateurs et les utilisatrices. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est une machine qui nous parle. Donc c'est de copier des émotions, on essayait d'en parler un peu aussi.
Oui, ça, on le ressent très bien. Je pense, par exemple, donc à cette mère, Maman Corbleu, et son fils Pablo. Je trouve, hein, autant Pablo, on ressent pour lui, on le comprend, on ressent son personnage et on a de l'empathie pour lui, on le voit. La mère, moi, je la trouve un peu dénuée. Ouais, c'est ça, dénuée de bienveillance et d'humanité.
Voilà, c'est effectivement une manière de le voir. Et je pense qu'on a forcé un peu des traits parce que c'est aussi une comédie un peu absurde. Et du coup, on se laisse la liberté d'avoir un peu recours à des caractères un peu forts et notamment ce rôle-là de la mère qui est très protectrice et très vigilante par rapport à ce que fait son enfant. Voilà, et qui finalement trouve un écho aussi dans pas mal de gens dans la salle, visiblement, parce qu'on nous a fait quelques remarques en sortant « Ah, mais la maman cœur bleu, c'est moi », etc. Donc, voilà.
Ah oui. Oui, mais la maman cœur bleu, elle est bienveillante envers son fils, mais on a l'impression que tout passe par là, les technologies, et qu'elle lui met des applis, je sais pas quoi, à distance pour qu'il soit plus heureux, des choses comme ça. J'ai l'impression que finalement, elle n'ose pas être tout simplement avec lui.
Exactement, et je pense que c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. En fait, on s'est un peu inspiré de l'esthétique de la série Black Mirror, qui parle aussi beaucoup des technologies, mais sous un angle assez intéressant, parce que Black Mirror met toujours l'accent de manière hyper extrême sur une dérive technologique, mais finalement ne parle pas vraiment de cette technologie. Elle parle de l'utilisation qu'en font les humains derrière, et du coup de nos dérives à nous, finalement, qui sont incarnées par l'outil technologique, mais qui ne sont pas créés complètement par cet outil. Et là, en l'occurrence, le flicage, si on peut dire, de la mère sur son enfant, qui est médiatisé par les applications, le contrôle parental, etc. Voilà, c'était une manière pour nous de le représenter de manière un peu comique et absurde, tout en soulignant qu'effectivement, il y a cette médiatisation qui nous met à distance et qui finalement tend à renforcer nos travers, nos défauts, nos angoisses aussi. Voilà.
Oui, et je pense aussi donc à la première histoire, c'est ça, hein, celle du couple. Bon, ils viennent de se séparer, et puis alors il y en a un des deux qui, vous savez, qui regarde toutes les applis, là, yeux cernés ou yeux de biche. C'est son ami, c'est ça, qui lui propose de faire ça, ou son horoscope, ou sa routine bonheur, avoir 152 jours de bonheur sur l'appli. Et nous, on a envie de se dire qu'elle vive, qu'elle parle, qu'elle aille rencontrer quelqu'un.
C'est ça. Et je pense qu'on là, avec cette espèce de... On a fait un peu une parodie des applications du type Duolingo, etc., mais sous un format, les applications qui vous incitent au bonheur et qui, en fait, existent finalement. Pas mal d'applications qui sont présentées pour réguler l'anxiété ou le stress, avec une espèce de gamification constante où il faut passer des étapes, il faut faire des petits jeux, et puis il faut avoir une routine, etc. Et je pense qu'on essaie de parler un peu de cette injonction au bien-être et au bonheur qu'on essaie de nous vendre à travers ces applications et qui finalement éloigne aussi du rapport amical un peu plus direct et pur qu'il peut y avoir.
Oui, oui. Ça, vous avez vraiment ce talent. Vous êtes de nous faire ressentir cela. Alors, vous venez de l'univers de la musique classique au départ, hein, le piano.
Oui, alors pas complètement. J'ai fait effectivement du piano, en particulier du classique quand j'étais plus jeune, mais aussi du jazz que j'ai appris en autodidacte à partir de l'adolescence. Et surtout, moi, j'ai une vraie culture comédie musicale qui est venue quand j'étais au Chœur d'enfance sotto voce, qui est dirigé par un chef de chœur américain qui s'appelle Scott Alan Proutney, qui m'a beaucoup transmis de cette culture anglo-saxonne et des codes de la comédie musicale. Donc voilà, j'essaie de mêler un peu toutes ces influences, avec également du côté des paroles un vrai amour pour le style de la chanson française et sa poésie et ses décalages poétiques qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est un peu un mélange de toutes ces influences-là.
Oui, les paroles des chansons sont extrêmement ciselées, intelligentes, puisqu'il y a énormément de références. Et elles sont bien évidemment en lien avec la dramaturgie. Je pense aux chansons, il y en a plusieurs, hein, j'ai noté « Je ne sais pas ce qui reste ».
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Alors ça, c'est dans quelle histoire, celle-ci?
Alors ça, c'est la fin du premier épisode qui tourne autour des applications de rencontres. Effectivement, on a ces histoires d'amitié et d'amour qui se déchirent un petit peu. Et la chanson qui s'appelle Au devant essaye un peu de refléter cet étrange sentiment de confusion générale qu'on peut avoir dans cet environnement de surstimulation constante au niveau numérique et aussi de perte de repères sur qui sont les gens qui vraiment nous entourent, parce que je pense que sur les applications de rencontres ou sur les réseaux sociaux, on est amené à être en contact de manière constante avec des gens qui ne sont pas vraiment présents dans nos vies. Et voilà, au bout d'un moment, ça crée un sentiment de solitude un peu étrange et de ne plus savoir vraiment ce qui nous entoure, ce qui nous reste à nous, qui sont les personnes qui nous aiment vraiment. Voilà, et c'est cette chanson un peu abstraite, essayer de juste un peu encapsuler ce sentiment-là.
Oui, et les paroles sont donc de vous, hein, je veux dire, et la musique. La musique d'ailleurs, alors, qui est magnifique, hein, vous êtes habillé en noir, vous interprétez au piano vos créations, votre musique. On est assez jazz quand même, hein, pro-jazz, variété un peu. New Age, comment vous qualifieriez-vous?
Je ne sais pas trop, un peu tout ça probablement. Beaucoup d'influence aussi des compositeuristes de comédie musicale anglo-saxonne, en particulier des références que moi j'ai beaucoup écoutées comme Stephen Sondheim ou Jason Robert Brown. Voilà, des compositeurs comme ça qui ont vraiment défini un style moderne de comédie musicale. Et qui eux-mêmes étaient inspirés beaucoup de jazz, de musique classique aussi, et de musique populaire. Donc voilà, c'est un peu un petit syncrétisme.
Pour l'instant, on ne peut pas les entendre, hein, vos créations musicales.
Pas encore, il reste encore jusque cet octobre pour venir les voir sur scène.
Oui, sur scène.
Et
mais
puis on espère dans d'autres occasions, mais
oui.
Voilà.
Oui, donc je rajoute, c'est donc jusqu'au 7 octobre au Théâtre Essayon à Paris et ses postes. Alors, question quand même avant de conclure. Poste, est-ce que vous voulez dire de fait de poster quelque chose ou le futur?
Eh ben, c'est justement une ambivalence sur ce thème. Voilà, on l'entendait, je pense, comme le préfixe de comme post-moderne ou des choses comme ça. Et effectivement, un petit jeu de mots avec le poste et notre manière de justement prendre la parole dans le domaine technologique.
Très bien. Merci beaucoup, Alex Todeau, d'avoir répondu à cette interview. Je vous laisse citer les comédiens.
Oui, alors sur scène, vous retrouverez Maud Saint-Jean, Axel Béros, Laure Marie-Aran et Stanislas de la Chapelle, qui sont vraiment exceptionnels dans leur rôle. Voilà, la mise en scène est le livret sont de Victor Bourrego, qui est assisté de Pierre-Antoine Suarez. Et les chorégraphies sont de Yvan Guélé et Maud Saint-Jean. Voilà, une super équipe.
Et la lumière, Charlotte.
Exactement. Création et donc, nous sommes la compagnie Coincée dans la machine. Oui. Et c'est notre premier spectacle.
Première production dont on entend beaucoup parler. Les comédiens, d'ailleurs, sont tous issus de l'univers de la comédie musicale.
Tout à fait. Ils sont tous une formation de l'École de comédie musicale de Paris, le CM. Voilà, donc ils sont vraiment formés à ça.
Très bien, merci beaucoup. Donc c'est Poste jusqu'au 7 octobre. On vous souhaite plein de succès, merci.
Merci beaucoup Agnès.
Au revoir Alex Todeau.
Au revoir.
Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Fantômes du syndicat des marchands de servitudes se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Planté dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un cynisme, bon je verre, moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. D'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de vernis. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Et dans le désert, depuis trop longtemps. Tous trafiquants d'armes, on est 50 millions de poètes. C'est ça qui doit faire notre charme. Sur une ligne de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant de nulle part, y'a Robinson le solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île, vous auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, la la la, et demande à qui ça sert, les yeux bandés. Hier un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit t'as tenu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. J'ai compris qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner ma vie. Je compte faire jouer.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous êtes sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Vous venez d'entendre dans le désert de Cap de Vielle, magnifique chanson sur les déserts justement. La transition est toute trouvée vu que nous allons parler de l'exposition Désert qui se tient en ce moment à Paris au Muséum d'Histoire Naturelle jusqu'au 30 novembre. Alors, c'est dans le Jardin des Plantes à Paris. Et je reçois Anne-Camille Bouilly. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous êtes la conceptrice de cette exposition. Vous nous proposez un magnifique voyage, une immersion finalement dans les déserts du monde que l'on connaît assez peu. Donc, magnifique scénographie, des films, des photos, des maquettes, enfin des animaux reproduits.
Naturalisés, oui, beaucoup. Oui.
Des plans, des cartes, des extraits de sable, de roches. Il existe une multitude de déserts, Anne-Camille Bouilly. Ils peuvent être faits de glace.
Oui, tout à fait. Mais c'était vraiment un peu le point de départ de notre exposition. C'était de présenter, de mettre en lumière.
Allô? Oui.
De mettre en lumière des milieux qui sont finalement assez méconnus. On a une vision assez réductrice des déserts. En général, quand on dit désert, la première chose à laquelle on pense, c'est du sable, il fait chaud, les palmiers, les dromadaires. Et en fait, la réalité, elle est beaucoup plus riche. Et c'est ce qu'on va montrer, notamment dans la première partie de l'exposition, où vraiment, on va montrer une variété de déserts, des déserts de sable, de roches, de glace, comme vous le disiez. Puisqu'on intègre dans notre synthèse les déserts aussi polaires.
Oui, alors l'exposition s'adresse à tous, à tous les publics, aux familles surtout également aux spécialistes.
On s'adresse vraiment à un public familial. Elle a été conçue du coup avec différents niveaux de lecture, avec des dispositifs, comme vous le disiez, des choses très très variées qui s'adressent vraiment à tous les âges.
Oui. Alors, quel est le point commun entre, finalement, pourquoi on dit désert ? Voilà, pourquoi l'Arctique est un désert ? Pourquoi ? Quel est le point commun ?
Oui, très bonne question. C'est vrai que quand on voit qu'il y a une variété, il y en a un petit peu partout autour du monde, à toutes les latitudes, qu'est-ce qui les rassemble ? En fait, avant tout, c'est la rareté de l'eau sous forme liquide. Les déserts, il y a peu d'eau. Alors, je précise sous forme liquide parce que dans les déserts polaires, il y a de l'eau, mais qui est la plupart du temps sous forme de glace. Et donc, c'est une eau qui n'est pas disponible pour les plantes et pour les animaux. Donc, avant tout, c'est des milieux arides. Après, il y a d'autres caractéristiques qui rassemblent tous les déserts. Ce sont des conditions qu'on peut qualifier d'extrêmes, avec des températures très extrêmes, que ce soit dans le chaud ou dans le froid. Et puis, ce sont des milieux avec peu de végétation, des milieux très ouverts aussi, balayés par le vent. Et donc, ça aussi, ça va générer un certain nombre d'adaptations.
Oui. Alors, beaucoup d'espèces animales, finalement, survivent dans le désert. C'est aussi ce que vous montrez au public, aux familles, aux enfants.
Tout à fait. Alors, je dirais même, elles ne survivent pas, elles vivent. Parce que pour elles, c'est des conditions normales. En fait, elles se sont adaptées. Donc, il y a de la vie dans les déserts. Il y a une certaine biodiversité, à la fois des animaux et puis aussi quelques plantes. Et on va montrer, notamment dans la deuxième partie de l'exposition, quelles sont ces adaptations qui leur permettent de supporter ces environnements très contraignants.
Oui, même pour les... Donc, on parlait des animaux. Je pense, par exemple, à ce coléoptère là, qui peut capter la moindre goutte d'eau, c'est ça ? Il monte en haut des dunes.
Le ténébrion, alors effectivement, il est... Tout à fait, il a des adaptations très spécifiques. Dans un milieu où il y a peu d'eau, on va essayer de capter la moindre goutte d'eau et puis de retenir aussi l'eau au maximum. Et donc le ténébrion va monter en haut des dunes au petit matin dans le désert du Namib où il y a beaucoup de brume et va du coup pouvoir capter l'eau atmosphériques, les gouttes d'eau atmosphériques, elles vont se déposer sur son corps et en faisant le poirier, en se mettant la tête en bas, cette eau va pouvoir être guidée grâce à des petits sillons qu'il y a sur ses élytres. L'eau va être guidée jusqu'à sa bouche hein, et donc c'est une façon effectivement de pouvoir profiter un maximum de toute l'eau environnante.
Oui, puis alors à l'opposé, eh bien dans le désert de l'Arctique, là c'est plutôt les manchots qui peuvent résister à des moins 60 degrés.
Alors, les manchots en Antarctique, oui, ils sont vraiment dans des conditions très, très, là encore, très extrêmes, avec des températures très froides. Et ils vont avoir plusieurs adaptations par rapport à ce froid, des adaptations morphologiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une grosse couche de graisse avec un plumage extrêmement dense qui vont servir de protection. Et puis également des comportements de ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est-à-dire qu'ils vont se serrer les uns contre les autres pour essayer de garder au maximum la chaleur du groupe.
Oui, alors il y en a d'autres hein, dans l'exposition. On voit bien sûr des lézards hein, qui ont toute leur place dans les déserts. Et on voit également dans ce désert d'Australie un marsupial hein, qui vit dans un terrier. Non, c'est pas ça.
Oui, alors il y en a plusieurs. Effectivement, il y a toute une partie sur les terriers. Et en fait, les animaux du désert, de façon assez générale, en Australie mais ailleurs, effectivement, vont beaucoup se protéger de la chaleur en l'évitant en fait au maximum, c'est-à-dire en se réfugiant dans les terriers le jour et en sortant aux heures les moins chaudes ou même pendant la nuit pour aller chercher leur nourriture.
Ah oui. Alors on parlait des végétaux, il y en a également beaucoup de sortes, même dans des zones très hostiles, oui. Notamment donc dans le désert de l'Atacama au Chili où on peut voir des tapis de fleurs.
Alors oui, ça c'est vrai dans beaucoup de déserts. En fait, la plupart du temps, effectivement, ces déserts sont peu végétalisés, mais en fait, il va y avoir des plantes tout à fait particulières qui sont qualifiées de plantes éphémères, qui donc vont pouvoir rester sous forme de graines tant que les conditions sont défavorables, qu'il fait très chaud, qu'il y a très peu d'eau. Et puis au moment où l'eau arrive, parce que de temps en temps l'eau arrive, souvent de façon d'ailleurs assez brutale, assez brusque, ces végétaux vont avoir une capacité à germer extrêmement rapidement, à se développer très rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'en très peu de temps, on va pouvoir avoir des déserts qui se recouvrent de fleurs, de ces plantes éphémères.
Oui. Question, quel est le désert le plus grand? Allez.
Alors, le plus grand, c'est l'Antarctique. Voilà, c'est un désert froid. Le désert chaud, le plus grand, c'est le Sahara.
Oui, ouais. Le plus vieux.
Le plus ancien, si je ne dis pas de bêtises, c'est le désert du Namib, je crois.
Ah oui, oui, oui. Et le plus habité par les végétaux?
Alors ça, je ne sais pas vous dire. Le bon. Plus habité par les végétaux, vous me posez une colle. Parce que globalement, il n'y en a quand même pas beaucoup.
Oui, oui.
En fait, il va y avoir différentes typologies de déserts. Il va y avoir des déserts extrêmement arides, des déserts semi-arides et des déserts subhumide. Donc on va avoir tout un gradient en fait qui est avec des limites qui sont un peu floues hein, parce que bien sûr il n'y a pas une limite clairement tracée, mais donc voilà, on va aborder un peu tous ces déserts dans l'exposition.
Alors est-ce qu'il y a un désert en Europe?
Alors oui, il y a des déserts, alors des petits déserts qu'on trouve en Espagne. Qui sont des régions effectivement des régions arides et en fait toute cette région méditerranéenne en fait est de plus en plus soumise du coup à des conditions avec un indice d'aridité fort et donc à terme avec le réchauffement climatique on peut imaginer qu'on va en avoir de plus en plus de ces zones arides en Europe.
Oui. Alors dans la troisième partie de l'exposition et eh bien vous parlez des humains hein, qui habitent que ce soit les nomades ou même les scientifiques tout ça a quand même dû bien évoluer. Est-ce qu'il y a toujours des déserts occupés par des nomades?
Oui, alors les déserts sont alors de plus en plus urbanisés, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des habitants temporaires et puis des habitants plus permanents. Il y a de moins en moins de nomadisme quand même, de personnes qui se déplacent pour aller chercher les ressources un petit peu partout sur le territoire. Mais il continue d'y avoir des mouvements, même s'ils sont plus saisonniers, plus temporaires. Donc il y a des hommes qui habitent le désert, des humains qui habitent le désert. Et puis, ce qu'on montre aussi dans l'exposition, on montre qu'il y a deux grandes stratégies, en fait, pour s'adapter à ces milieux. La mobilité, donc le fait de se déplacer, et puis le fait de transformer le milieu. Et donc, on va avoir tout un développement sur les oasis, notamment, qui sont des constructions de l'homme, qui vont permettre de créer comme des espèces de bulles au milieu du désert, où on va apporter l'eau, on va pouvoir constituer des jardins et donc vivre dans ces oasis.
Oui, et ça on le voit très bien dans l'exposition. On voit une fameuse tente nomade, on voit une yourte et on voit la maquette d'un oasis.
Oui, tout à fait. Voilà, ce qui permet du coup effectivement d'illustrer ces deux stratégies, la mobilité et la transformation du milieu.
Oui, et on voit également des interviews et quelques documents sur des scientifiques et sur la recherche.
La dernière partie de l'exposition. On a voulu effectivement donner la parole cette fois à des scientifiques de différentes disciplines qui nous expliquent en quoi le désert peut être un terrain privilégié de recherche, quelles connaissances ça leur apporte. Et puis, ils nous livrent aussi un petit peu leur témoignage plus sensible, en quoi ils sont attachés au désert, pourquoi c'est un milieu qui les fascine. Et donc, chacun nous a prêté un spécimen, un objet qui va témoigner en fait de son activité et de son rapport au désert. Il y a une météorite, par exemple, d'un chercheur de météorites dans le désert d'Atacama. Il y a un manteau traditionnel de femme du Nunavut qui nous a été prêté par une biologiste qui travaille plutôt sur le renard arctique en territoire arctique. Et puis il y a un ethnologue, il y a plusieurs disciplines qui sont représentées.
Ouais. Et puis alors vous le disiez tout à l'heure, certains déserts ont été, commencent en tout cas à être totalement construits. Hein. On pense à Dubaï, on pense à ce désert en Chine, désert du Taklamakan. Et également,
il y a des images qui montrent effectivement ces urbanisations assez extrêmes. On parle des oasis, mais on ouvre aussi à la fin de l'exposition sur d'autres types d'urbanisation du désert. Ouais.
Merci beaucoup pour cette interview, Anne-Camille Bouilly. Je rappelle donc l'exposition Désert jusqu'au 30 novembre au Musée national d'histoire naturelle. Juste pour conclure, par rapport à l'actualité, il y a eu donc un incident ces derniers jours au musée.
Alors il y a eu hier. Alors je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que j'en sais pas tellement plus que vous à mon avis, mais il y a eu effectivement un vol par effraction dans la galerie de minéralogie et il semblerait qu'il y ait eu des pépites d'or qui ont été dérobées. Mais l'enquête est en cours, là c'est tout récent, donc je n'ai absolument pas plus d'informations que ça vous donner là-dessus.
Voilà, bien triste nouvelle. Bon, voilà. Ok, très bien, merci. Donc c'est l'exposition Désert au Musée d'Histoire Naturelle jusqu'au 30 novembre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, l'émission est terminée. Vous retrouverez vendredi prochain Marie-Laure avec tous ses invités et puis moi-même le vendredi 3 octobre pour parler de culture et de nos coups de cœur. Bonne soirée.